L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. On demande régulièrement qui je rêverais d'enregistrer sur ce podcast. Et mon invité du jour, Mathieu Ricard, fait totalement partie des personnes que je rêvais de rencontrer. Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste qui a passé 50 années de sa vie au Tibet à analyser les textes, à apprendre de ses maîtres sacrés. C'est aussi le traducteur du Dalai Lama. Il a un surnom qui est l'homme le plus heureux du monde. Et puis, c'est également un docteur en génétique. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Carnet d'un moine errant », mais il a évidemment écrit de nombreux ouvrages au cours de sa vie. Avec Mathieu, on parle de nombreux sujets, mais en particulier de la liberté intérieure. On parle d'amour inconditionnel, on parle de neurosciences, on parle de la vie profonde, on parle de ce que ça veut dire d'être reclus pendant autant d'années. On parle aussi du fait de savoir s'il est possible d'aider l'humanité quand on est seul comme ça, loin du monde. On parle aussi de tout ce côté narcissique du développement personnel et de ce que ça implique, de ce que ça veut dire de méditer. Bref, une conversation que je trouve évidemment, pour le coup, vraiment hyper importante. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Mathieu.
Bonjour cher ami.
Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez bien?
Ah, comment je me sens? Écoutez, la vie est belle, d'un certain point de vue. Et puis, si on va au fond du fond, derrière les rideaux et les vagues des pensées, il y a toujours quelque chose qui ne change pas. Une sorte de présence ouverte. Et le reste, ce sont des constructions mentales qui viennent parfois obscurcir, parfois qui sont changeantes. C'est la périphérie du mental. Mais l'essentiel ne change pas. C'est un mélange de sérénité, de vision claire, de pleine. Et voilà, si on arrive à aller derrière le rideau des pensées, c'est toujours là.
Comment justement on arrive à être serein dans un monde qui bouge de crise en crise, en fait, qui devient de plus en plus compliqué?
Il y a deux aspects. Il y a d'une part, comment est-ce qu'on interagit avec le monde? Donc essayer de, dans la mesure de nos moyens, de nos capacités, du temps, de l'énergie dont on dispose, d'essayer de remédier à pallier la souffrance, d'apporter un peu de bien-être. Et puis, la façon dont on fait nous-mêmes l'expérience des choses. Et là, ça dépend de la façon dont fonctionne notre esprit. Donc ça, c'est influencé par les conditions extérieures, mais n'est pas dépendant des conditions extérieures. C'est-à-dire, en fait, c'est notre esprit, en fin de compte, qui transforme les conditions extérieures ou les traduit en bien-être ou en mal-être. On sait très bien qu'on peut... La façon dont fonctionne notre esprit peut éclipser les conditions extérieures jusqu'à un certain degré. Et on peut être misérable dans un petit paradis comme conserver sa voie de vivre dans des conditions adverses. Donc, bien sûr, l'esprit ne fait pas tout, mais quand le seul recours que l'on a, parce qu'on est notre maîtrise des conditions extérieures est limitée, illusoire et temporaire, au moins on peut travailler sur la façon dont notre esprit interprète tout ça. On a affaire à lui du matin au soir, donc on a intérêt à avoir un esprit qui fonctionne de manière plus optimale. Et donc la sérénité, c'est à quel point nous sommes vulnérables au haut et au bas de l'existence. Et si on a trouvé une certaine sérénité, c'est qu'on a construit les ressources intérieures qui nous permettent de traverser les hauts et les bas de l'existence en conservant notre équilibre émotionnel et un état de manière d'être optimale. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on est indifférent au sort des autres, bien loin de là. Mais il y a des... Être concerné par le sort des choses avec bienveillance, c'est un état d'esprit qui est constructif, qui mène à la sérénité, qui n'est pas, c'est pas un esprit, un état d'esprit perturbateur.
Donc c'est dans une forme d'empathie qu'on va aller chercher
L'empathie, c'est un état mental qui est extrêmement important, car l'empathie affective, c'est une résonance avec l'état affectif de l'autre. Si l'autre est joyeux, vous êtes joyeux. S'il est triste, vous êtes triste. S'il souffre, vous souffrez. Et l'empathie cognitive, qui est de se mettre d'imaginer ce que l'autre ressent sans pour autant le ressentir. Alors l'empathie est absolument nécessaire parce qu'elle nous renseigne sur la condition de l'autre. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'empathie parce que si justement vous raisonnez continuellement avec la souffrance de l'autre, par exemple, je sais pas, des personnels soignants, des gens qui s'occupent des migrants, des sans-abri, eh bien comme c'est l'effet que cela a sur vous, eh bien, si c'est de la souffrance et encore de la souffrance et toujours de la souffrance, à un moment donné ça devient un fardeau insupportable, donc il y a un épuisement émotionnel, une détresse empathique et un burn-out. Par contre, l'amour altruiste, la compassion est tournée vers l'autre. Ce n'est pas l'effet que ça a sur vous, c'est vers l'autre. Comme un médecin sur le champ de bataille, il ne va pas pleurer dès qu'il voit un malade ou un blessé, il va faire ce qu'il peut. Et être tourné vers l'autre avec compassion, régénère vos forces. C'est comme un baume sur la détresse empathique. Ça a été montré en neurosciences, avec les travaux que j'ai collaboré avec Tania Singer, que en fait la bienveillance est un remède à la détresse empathique.
Une question, parce qu'effectivement, vous êtes docteur
en génétique moléculaire.
C'est toujours un peu étonnant, quelqu'un qui vient de la science, mais on a dû vous poser la question mille fois, où souvent il y a deux courants quand même dans la science. Il y a des courants qui sont très cartésiens de ce qui se passe, je ne crois que ce que je vois. Et puis de l'autre côté, il y en a qui sont plus ouverts, on va dire. Mais vous parlez beaucoup de la réincarnation, par exemple. Vous parlez beaucoup de tous ces sujets-là, qui sont souvent pas en accord, parce que la science n'est pas capable de le prouver. On n'est pas capable de prouver l'inverse non plus. Mais...
Alors finalement, la science, qu'est-ce que c'est? C'est une poursuite, une investigation rigoureuse de la réalité. C'est-à-dire d'abord une découverte, on découvre ce qu'on ne connaît pas, et puis ensuite un mode d'explication des phénomènes naturels, biologiques, et aussi de prédiction, c'est-à-dire que si telle ou telle loi mathématique, physique, ou par exemple loi de la génétique, sont connues, on peut prédire ce qui va se passer avec un degré de justesse qui fonctionne. Donc, est-ce que la psychologie, il y a des sciences qu'on appelle les sciences douces, parce que ce n'est pas des mesures avec des appareils, mais la psychologie fait partie de ça aussi, parce que c'est quand même une science de l'esprit, parce qu'il y a des mécanismes, on sait que la haine, ça n'a jamais rendu personne heureux. Mais d'un point de vue, c'est une science, on a une prédiction, la haine ne vous rendra pas heureux, et le résultat, c'est qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le bouddhisme, d'un certain point de vue, un des buts de la philosophie bouddhiste, c'est de combler le fossé entre les apparences et la réalité. On pense que les choses sont plus ou moins stables. La tasse qui est devant moi, c'est la même qu'hier. Non, c'est pas la même qu'hier. L'impermanence grossière et subtile fait qu'elle change à chaque instant. Donc déjà, c'est une distorsion de la réalité. On pense que cette tasse est une entité isolée, c'est-à-dire qu'elle tient bien la route toute seule. En fait,